Ce podcast est soutenu par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagé.
À la limite, moi, je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement. Franchement,
calme-toi, t'as aucun intérêt à te
Faut pas éclater mes oreilles.
Elle aime les genoux. Elle leur file ses cookies, son petit trou chaud. Elle aime le barreau. Les mecs l'achètent. Ils se ruent pour la garder. 30 jours plus tard, ils préfèrent la rendre. Utilisée comme un torchon, larguée par un hashtag, c'est Sacha qu'il faut blâmer. Cette merde doit être mauvaise. Chatte cassé. Ah, c'est vendredi soir. Oui, je chante. Toute seule, tranquillement, chez moi. Avec une bonne flemme de sortir. Au programme, scroller en quête d'une nouvelle série à regarder. Et finalement, me dire si je regardais encore une série que j'ai vue au moins 1000 fois. J'entends d'ici mon psy.
Vous êtes en quête d'un sentiment de réconfort, d'un effet doudou.
Il n'a pas tort, hein. Le titre du podcast reprend quand même un extrait du film Doudou de mon enfance. Le sixième doigt.
Faut pas éclater mes oreilles, hein. Pardon, faut pas rester ici.
Pourquoi Ya, héroïne du film, exige ça? Parce qu'à chaque scène, on a le droit à un dialogue distingué de ce type.
Ne te fatigue pas, mon cher. Tu auras un beau garçon. Et c'est toujours comme ça pour le premier enfant. Et puis après, on s'habitue. Allez. Ah, mais tu es fâché? Mais où vas-tu?
Pisser un coup. Pour aider ma femme.
Il n'y a pas de problème, tu es devenu fou.
Non, je ne suis pas fou. Je vide ma vessie, cela va aider l'enfant à sortir.
Heureusement pour elle qu'elle n'accouche pas à chaque fois que tu pisses.
Bon, ce soir, pas de sixième doigt. Place à du contemporain. Le pilote de la série Insecure. C'est de là que vient Broken Pussy, fredonnée et traduite au début. J'ai tout de suite accroché. Pourquoi? Parce que les héroïnes sont des femmes noires avec un quotidien tout à fait ordinaire. Ok, elles habitent à Los Angeles. Et l'héroïne Issa a un passé de rappeuse, tellement moins hein, comme on l'a entendu au début. Mais avec leurs galères de taf, de thunes, de mecs et de famille, je peux me projeter en elles. En tout cas, bien plus que dans les héroïnes avec lesquelles j'ai grandi. Moi, tour à tour, j'ai voulu être Princesse Sarah.
Princesse Sarah, mignonne petite fille.
Mais alors, le trip orpheline déchue, passant de la suite royale de son internat bourgeois à la chambre de bonne, et après les brimades, humiliations et maltraitances qui pardonnent à l'horrible Mademoiselle Mangin dès sa fortune revenue, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un rôle modèle d'empowerment. Après, il y a eu Brenda Walsh. Bon, soyons honnêtes, hein, c'était surtout pour Dylan McKay, feu Luc Perry. Bad boy, disposant d'une obscure fortune, dilapidé tour à tour dans le jeu, l'alcool, la cocaïne et autres tentatives d'entrepreneuriat foireuses. J'ai assez d'amour-propre aujourd'hui pour me dire que j'ai le droit d'aspirer à mieux. Et enfin, Dr. Quinn. Alors, s'implanter dans un désert médical du fin fond du Colorado, prendre à sa charge 3 orphelins et refaire toute l'éducation des hommes du patelin en matière de misogynie, racisme, justice, et ça, du saloon au banc de l'église, qu'était-elle allée faire dans cette galère de charge mentale? Mais enfin, peu importe, moi je ne vois pas les couleurs. L'héroïne peut être blanche, noire, bleue, violette, ça ne fait aucune différence. Celle-là, là, c'est ma petite voix universaliste. Elle essaye toujours d'arrondir les angles. Ben, je lui réponds qu'à force de se voir dans des rôles stéréotypés ou pas du tout, on finit par se croire invisible. J'ai donc passé une bonne partie de ma vie à me penser comme un second rôle. Un second rôle pas prête d'incarner l'héroïne féminine typique. Si, si, vous savez de qui je parle. Celle qu'on voit dans toutes les comédies romantiques. Façonnée par le male gaze, tel que décrit par la Britannique Laura Mulvey, militante féministe et cinéaste anglaise.
Le quoi ?
Bah, le male gaze, qui désigne la façon dont les films sont dans leur forme structurés par l'inconscient et les codes de la société patriarcale. En 1975, Laura Mulvey explique dans l'article référence Visual Pleasure and Narrative Cinema que dans un monde construit sur l'inégalité sexuelle, le plaisir de regarder a été divisé entre l'actif masculin et le passif féminin. Le regard déterminant du masculin projette ses fantasmes sur la figure féminine, la modelant en conséquence. Dans leur rôle traditionnellement exhibitionniste, les femmes sont à la fois regardées et exposées, leur apparence étant construite pour provoquer un fort impact visuel et érotique qui, en soi, est un appel au regard. Et sous ce regard, notre vulnérable héroïne attend. Mais elle attend quoi au juste ? Eh bien, elle attend qu'un homme vienne la valider. Il lui donne accès à la place qu'elle mérite.
On ne laisse pas bébé dans un coin.
Dirty Dancing. Il accepte ses soi-disant imperfections.
I'm sorry if I've been...
What?
I don't think you're an idiot at all. I mean, there are elements of the ridiculous about you. Your mother's pretty interesting. And you really are an appallingly bad public speaker. And you tend to let whatever's in your head come out of your mouth without much consideration of the consequences. I realized that when I met you at the turkey curry buffet that I was unforgivably rude and wearing a reindeer jumper that my mother had given me the day before. But the thing is, what I'm trying to say very inarticulately is that, in fact, perhaps despite appearances, I like you very much.
Apart from the smoking and the drinking and the vulgar mother and the verbal diarrhea.
No, I like you very much, just as you are.
Le journal de Bridget Jones. Il concède publiquement être prêt à l'aimer même si elle a l'audace de lui faire un peu d'ombre.
Mademoiselle Scott, est-ce qu'on pourrait imaginer que tous les deux, vous deveniez un peu plus que des amis ?
À un moment, je l'avais espéré, mais maintenant, je suis sûre que non.
Mais que diriez-vous si jamais...
Désolé, une seule question, s'il vous plaît.
Non, ça va. Oui, vous disiez.
En fait, je voulais savoir... S'il s'avérait que cette personne...
Tucker. Il s'appelle Tucker.
Merci. Oui. Je me demandais si... Monsieur Tucker comprenait qu'il avait été... un connard de première. Et qu'il s'agenouillait... pour vous supplier de changer d'avis. Est-ce que vous pensez que... vous... changeriez d'avis ?
Coup de foudre à Notting Hill. Alors, moi aussi j'ai attendu. Et mon heure est venue. Oui, moi aussi j'ai eu le droit à ma validation, élégante et sincère. Je vous laisse l'écouter.
My lonely days are over. And life is like a song.
achètent de noir, elles encaissent mieux.
Aussi inoubliable que...
T'as de bons yeux, tu sais.
Inoubliable, mais dans un contexte tellement banal. Banal. Parce que je m'adonnais à une activité que 24% des Françaises et 37% de leurs homologues masculins ont déjà pratiqué au cours de leur vie. Oui, moi aussi, j'ai utilisé mes doigts pour swiper de gauche à droite. Et je ne suis donc pas seule, puisque un quart des Français ont rencontré leur partenaire via Internet, selon les chiffres tirés de l'étude Statista sur les sites et applications de rencontres en France. J'ai donc confié mon destin, ou juste ma soirée, hein, soyons un peu honnêtes, à un algorithme me promettant de mettre un terme à mes vendredis soirs seuls, sous un plaid, devant une série. Dans cette pratique, rien de bien original. Il suffit d'un téléphone, d'une connexion Internet, et comme à l'école, on vous note. Une note qui définit à quel point vous êtes désirable, comme l'a révélé Judith Duportail. Cette journaliste spécialiste de l'impact de la technologie sur la vie intime l'a écrit dans un livre « L'amour sous algorithme » publié en 2019. Et cette désirabilité n'est pas uniquement sexuelle. Le barème de notation s'agite selon le niveau d'études, de revenus et même en analysant la syntaxe utilisée dans les messages échangés. Je serais curieuse de savoir comment on établit une notation avec des phrases de type « Tu recherches quoi sur cette application ? C'est quoi le dernier film que tu as vu au cinéma ?» T'as été à New York il y a 3 ans ? Oh, c'est pas vrai, moi aussi. Ça se trouve, on s'est croisés sans le savoir. Lol, emoji mort de rire. Et la phrase « Les chattes de noir, elles encaissent mieux », elle te classe où exactement dans le Hall of Fame de l'appli ? Parce que, vous l'aurez compris, c'est comme ça qu'un de mes prétendants virtuels a eu l'extrême délicatesse de me signifier son intérêt. Je ne résiste pas au plaisir de vous rejouer la scène. Swipe gauche, swipe gauche, swipe droite. T'as encore lui ? C'est au moins la 10e fois que je vois son profil. Bon, en même temps, hein, son selfie avec cet ancien président pour lequel je n'ai pas du tout voté ne me donne pas franchement envie.
Quelle indignité.
Bon, ça va, Judith. Un peu d'ouverture d'esprit. Ça se trouve, c'est du second degré. Bon, allez, swipe droite. Bingo ! Ah, 3 petits points. Il m'écrit.
Enchantée, Judith.
Hello, enchantée aussi.
Je vois qu'on habite dans le même coin.
Lol, emoji, clin d'œil. Ok, Captain Obvious, c'est le concept de l'appli. Bon, allez, fais un effort, Judith. C'est pas si simple de briser la glace. Allez, on répond. Oui, oui, j'aime bien ce quartier, il est cool.
Tu sors souvent parce que je t'ai jamais croisé ? Et si je t'avais vu, je t'aurais remarqué. Hein.
Émoji, regard suggestif. Eh bah, ben, je crois que c'est à ça que servent les applis. Hein.
Non, mais je dis ça parce que les blacks, d'habitude, je les remarque.
Oh putain, un adepte des blacks. Dis noir pour voir. Non, mais parce que c'est pas un gros mot. Hein. Bon, reste calme, Judith. C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que je suis plutôt attirée par les africaines, quoi.
Eh bien, t'es mal tombée parce que je suis née à Romorantin, dans le Loir-et-Cher.
On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec...
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Non, non, vas-y, éclaire-moi, je t'en prie.
Bah, Oli, vous êtes quand même plus...
Plus quoi ?
Bah, les chattes de noir, elles encaissent mieux.
C'est bon. La glace est bien brisée, là. Et notons qu'il a fait l'effort d'utiliser le mot « noir ». Je vais vous épargner le dialogue qui s'en est suivi, mais pour résumer, j'aurais voulu avoir le calme et la classe de Toni Morrison pour expliquer à ce type ce qui n'allait pas dans ce qu'il venait de m'écrire.
You can't understand how powerfully racist that question is.
Traduction, tu ne peux pas comprendre à quel point cette question est raciste. À la place, bon, bah, j'ai manifesté ma désapprobation d'une autre manière.
Oui, je m'énerve. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce
Attends,
que tu vas me faire?
Non,
qu'est-ce
t'approche
que tu vas
me faire? Trop.
Je m'approche
t'approche
pas,
pas trop, s'il te plaît. T'approche pas trop.
Enlève ta main.
Une réaction que notre gentleman n'a pas supportée. Raciste, lui.
En quoi c'est raciste?
Lui qui ne sort qu'avec des blacks. Lui qui veut juste exprimer sa préférence. Ah, on l'y reprendra, hein. À faire un compliment. Hein, c'était donc ça, un compliment. Et moi, tellement ingrate, je n'ai pas su recevoir cette haute distinction comme il se doit.
Thank you. I'm so honored.
Mais c'est tout moins ça, hein. Toujours avoir le mal partout. Il voulait juste me rendre service en soulignant objectivement une de mes qualités apparemment intrinsèques. Et moi, qui perds mon temps sur cette appli, a proposé dans mes quelques lignes de présentation de prendre l'apéro et d'aviser ensuite. Alors qu'il me suffisait d'afficher « Venez nombreux, chatte d'acier à disposition ». Voilà une phrase d'accroche digne de ce nom pour se démarquer. Et c'est pas comme si j'en avais pas besoin. Je ne sais pas quelle note m'a attribué l'application. Ce que je sais en revanche, c'est qu'en tant que femme noire, à des années-lumière de la taille 36, je ne suis pas en pole position sur la ligne de départ de l'algorithme. L'essai « Dataclysm, Who We Are When We Think No One's Looking » de Christian Röder, cofondateur d'OkCupid, acteur majeur de la rencontre en ligne, révèle que les femmes noires sont jugées 19% moins attirantes que la moyenne de toutes les utilisatrices. Heureusement pour moi, de nombreuses productions, comme « Ouvrir la voie » d'Amandine Gay, « Je suis votre pire cauchemar » de Qui est Miss, « Amour silencieux » de Christelle Murula et bien entendu « À propos d'amour et ne suis-je pas une femme » de Bell Hooks m'ont bien éclairé sur les dynamiques qui se jouent quant à la place des femmes noires et grosses sur le marché de la romance. Un prisme qui, selon elle, va d'un côté de la misogynie noire, terme introduit en 2008 par la chercheuse et militante féministe afro-américaine Moya Bailey, qui désigne les polydiscriminations sexistes et racistes spécifiquement subies par les femmes noires. De l'autre côté, une hypersexualisation saupoudrée de fétichisme qui s'exprime parfaitement dans cette phrase prononcée par l'acteur Vincent Cassel au cours d'une interview accordée au magazine People Closer en 2011. Jeune, j'avais ce qu'on appelle la jungle fever. Je n'étais attirée que par les femmes métisses ou noires. Puis, j'ai été spécialisée dans les filles asiatiques et ensuite les petites rebeux parisiennes. Dans la même interview, l'acteur finit par nuancer ses propos en concédant que, tout de même, ce n'est pas la meilleure manière de s'intéresser aux gens. Il est toujours soupçonné de fétichisme aujourd'hui, mais bon, ça ne le perturbe pas plus que ça. Aïssa Maïga a tenté d'évoquer le sujet lors des Césars 2020.
C'est Vincent Cassel. C'était toi le Renoir du cinéma français avant la diversité. Je te mets dans le quota, ça te va ou pas? C'est bon? Allez. Bon.
Sur le coup, il n'a apparemment pas compris. Et puis, après la cérémonie, il a de nouveau fait part de ses penchants avec le hashtag NégrophileForLife, traduction Négrophile à vie, sur une publication Instagram félicitant son ami Lajli, récompensé cette année-là pour le film Les Misérables. Ben alors, si même les figures publiques le revendiquent fièrement, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, me direz-vous? Les œuvres que j'ai citées et qui challengent ces dynamiques ne sont-elles pas biaisées? Tous ces travaux viennent de femmes noires qui parlent d'elles, entre elles et avant tout pour elles. Attention au manque de recul. Pourquoi j'irais uniquement écouter les témoignages des concernés alors qu'un homme blanc, qui a l'air de connaître le moindre recoin du corps des femmes, m'assure que les chattes de noires, elles encaissent mieux? Mais ce serait idiot de passer à côté des avantages que pourrait m'apporter cette compétence.
Mais moi, là, avec mon foutu syndrome de l'imposteur, j'ai tendance à douter de mes qualités. Non, non, si je dois revendiquer une quelconque supériorité vaginale, il faut que celle-ci soit rigoureusement démontrée. Mais alors comment je vérifie ? Je fais passer un questionnaire d'évaluation à d'anciens partenaires ?
Hey, salut toi ! Il y a 5 ans, on a couché ensemble. Ouais, et je mène une petite enquête sur la robustesse de mon entrejambe. Tu as quelques minutes à m'accorder ? Ah, t'es pressé ? Tu dois emmener tes enfants à l'école. Ok. Je te rappelle ?
Vous aussi, vous sentez le malaise ? Et puis, qu'est-ce qui me garantit que l'échantillon de mes fréquentations est significatif et les résultats de l'enquête probants ? Et tout ça, finalement, c'est que du déclaratif. Moi, pour être à l'aise avec ce titre de chatte suprême, ce sont des preuves scientifiques qu'il me faut. Je profite donc d'une consultation chez ma médecin traitant pour la questionner sur la puissance présumée de mon sexe. À la base, j'étais venue pour me faire renouveler une ordonnance. On devise sur ma foutue ferritine qui ne remonte pas, sur ce qu'il faut que je mette dans ma trousse de secours pour mon séjour prochain au Togo. Et tout d'un coup, je me lance. Docteur, un homme m'a dit un jour, je le cite, que les chattes de noir, elles encaissent mieux. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est prouvé ? Bon, après un froncement de sourcils et un regard qui voulait dire « Il faut peut-être que j'interroge cette patiente sur sa consommation de drogue », elle m'a quand même répondu.
Alors je ne vois pas où ce monsieur va en venir. En tout cas, pour ma part, je ne peux me baser sur aucune donnée d'anatomie.
Aucune, vraiment ? Vous n'allez pas me dire qu'au cours de ses travaux, l'Américain J. Marion Sims, père de la gynécologie moderne, n'a pas pu clairement prouver, comme il l'avançait publiquement, que les organes génitaux des femmes noires étaient différents de ceux des femmes blanches. Pourtant, c'est bien à partir de cette théorie qu'entre 1845 et 1849, il a testé ses techniques, perfectionné des procédés chirurgicaux et même inventé le spéculum sur des femmes noires, esclaves, sans anesthésie. Sa justification ? Leur vagin serait plus résistant et elles ne ressentent pas la douleur. Bah voilà, elles encaissent mieux. Et elles encaissent tellement mieux que certaines ont carrément eu l'honneur de voir leurs organes génitaux conservé précieusement dans du formol.
C'est assurément dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cet hottentote et l'orang-outan.
Soumise.
On dit que vous êtes une princesse. C'est vrai ?
Approchez, messieurs dames ! Allez ! Dépassez votre jeûne !
Mesdames
et messieurs, la Vénus hottentote.
Avant d'être le personnage principal d'un biopic d'Abdelatif Kechiche, sorti en 2010, la Vénus hottentote, de son vrai nom Sarah Bartman, est loin d'avoir eu un destin de star de cinéma. Son corps a été exposé comme une bête de foire dans un zoo humain, exploité pour assouvir les fantasmes d'hommes et de femmes de la haute société. Même dans la mort, ce corps n'a pas eu droit à la tranquillité. Il a été disséqué, moulé et exposé jusqu'en 1974 au Musée de l'Homme quand même. Il fallait au moins ça pour soi-disant honorer le sexe et les fesses, apparemment hors normes de la Vénus noire. Et si c'était elle, finalement, la première icône de la domination vaginale des femmes noires ? Enfin, icône, hein, faut le dire vite. Hein. Son destin ne respire pas la success story. Prostituée, elle a sombré dans l'alcool avant de mourir en 1815.
elle n'a eu droit à une inhumation digne de ce nom dans sa terre natale d'Afrique du Sud qu'en 2002. Je vous laisse juger les mots qui reviennent le plus dans les articles à son sujet. Infériorisée, déshumanisée, animalisée, objectifiée. À peu près tous les termes qui me viennent quand je repense à la déclaration de mon Don Juan virtuel. Si l'anatomie n'arrive pas à prouver ses propos, il faut, je pense, les envisager via l'angle de la performance. Et d'ailleurs, ma médecin qui renchérit...
Peut-être qu'il s'appuie sur les croyances communes qui veulent que les corps noirs soient plus athlétiques, plus musclés, plus performants.
Ne me dis pas autre chose, hein. Qui dit performance, dit entraînement intensif. Et je dois dire que j'ai pas été aidée, hein. J'ai beau chercher, je n'ai trouvé jusqu'alors aucun bootcamp pour entretenir mon patrimoine vaginal. Aucune routine quotidienne, aucun produit miraculeux. Et puis, pour savoir comment m'entraîner, il faut que je réponde à une question essentielle. Pourquoi ma chatte est censée mieux encaisser que celle des autres? Eh bien, peut-être parce qu'elle a le meilleur des partenaires d'entraînement.
Il dit, voilà, dans le privilège des jonquilles, vous affirmez que la bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique.
Regarde, regarde, dans une classe de 6e, il y a un Noir et un Blanc. Lequel a le plus gros sexe? Le Noir, parce qu'il a 36 ans.
C'est donc ça. Ma supposée hégémonie est indexée sur le fantasme ultime quand il s'agit de virilité. Le phallus de l'homme noir. Alors je voulais prendre ce temps pour dire merci. Merci pour tous ces moments. Pour cet instant d'intimité, par exemple, où j'ai dû rassurer un partenaire sur sa performance parce que je ne devais pas m'attendre à, je le cite, une grosse d'homme noir. Ou par cet échange qui se voulait complice avec une femme qui, je cite encore, y avait déjà goûté et qui louait ma chance d'appartenir à une telle communauté. Avec tous ces compliments, je devrais être à l'aise pour arborer fièrement ma couronne de chatte en béton armé. Pas selon ma médecin, qui, en même temps qu'elle me prend ma tension, me balance la froide vérité.
Franchement, votre type-là, il a surtout une tête remplie de clichés.
Si vous voulez savoir de quel cliché il s'agit, je vous invite à aller explorer la revue des termes les plus recherchés sur le site de streaming pornographique Pornhub. Chaque année, la plateforme nous livre le palmarès des mots clés les plus recherchés par ses utilisateurs. En France, 3e pays le plus consommateur de contenu porno en 2022, toujours selon le site Pornhub, en France donc, on reste tradi. Française, MILF, MILF française, lesbienne, anal, mais on cherche à voyager aussi. Hein. Hentai, asiatique, arabe, ébène, latina, et dans les plus fortes progressions de recherche, les femmes voilées se retrouvent à rivaliser avec les poupées sexuelles. Si vous n'avez pas envie de souiller votre historique de recherche ou même le clavier de votre ordinateur, je vais vous livrer un petit échantillon de ce que ça donne dans la vraie vie avec des amis qui ont eu l'honneur, comme moi, d'être fétichisés.
J'ai pas vraiment de phrase choc comme la tienne. Ça va plutôt être des petits trucs, tu vois. Le mec qui arrive, qui fait un peu son malin et qui t'aborde en te disant « Hey, t'es kawaii, toi ?» Genre, je parle ta langue, on va se comprendre. Je suis même pas d'origine japonaise et je sais même pas ce que ça veut dire. Ou alors, ceux qui te demandent « Mais c'est vrai ce qu'on dit sur l'anatomie des mecs asiatiques ?»« Mais qu'est-ce que j'en sais ?» Comme si, au prétexte que je suis moi-même d'origine asiatique, j'étais spécialiste du sujet.
Marion, geisha qui ne restera pas dans les mémoires.
Quand j'étais au lycée, il y avait plusieurs filles arabes. Et j'ai appris plus tard que j'étais estampillée sans grand frère. La traduction, c'est « elle n'a pas d'homme pour surveiller sa vertu, donc elle doit être plus ouverte que les autres ». Ouais. Et en plus, je fume, et comme on me l'a déjà dit, une arabe qui fume, c'est une arabe qui baise.
Sabrina,
gazelle éternelle.
Ça commence toujours avec la fameuse question « Tu viens d'où ?». Alors, dès qu'on apprend que mon géniteur, bah, il est sénégalais, alors là, t'es plus personne, t'es le Sénégal tout entier. Tu peux expliquer de toutes les manières possibles que tu connais pas ce pays, que tu n'as jamais mis les pieds, ça sert à rien. On t'écoute pas. Ah, j'ai un exemple, hein. Quand j'étais jeune fille au père, il y a un mec qui a tenté de m'embrasser en fait, de force sous prétexte qu'il aimait les femmes noires et métisses. En fait, bah, voilà, il voulait goûter comme si j'étais un fruit exotique.
Zélia, métisse loin d'Ibiza. En définitive, on est toutes, chacune à notre niveau, les chattes de noirs qui encaissent mieux de quelqu'un. Il est donc plus sage pour moi de renoncer à ce titre honorifique qui n'en est pas un. À la place, je vais continuer à me nourrir de productions dans lesquelles les femmes noires ont décidé de se donner le premier rôle. Comme dans cette chanson, sur les tribulations d'une chatte certes cassée, mais ça vaudra toujours mieux qu'une soirée avec un mec qui me promet de casser la mienne. Maybe it's really rough. Maybe it's had enough broken pussy. C'était Faut pas éclater mes oreilles, épisode 2. Merci à Maxime, qui a eu la lourde tâche de reproduire la prose de mon Don Juan virtuel, à Sabi, Marion et Zélia, au Docteur A. Merci au studio All Sounds, à Maceo et à Vincent Berthe de chez So Good. Broken pussy.